Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, vous savez, les trois lettres, hein, AVS, ça veut dire à votre santé. Nous allons voir avec mon invité, le docteur Vladimir Mitz, si finalement la chirurgie esthétique, c'est la santé. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Comment on vous présente? Alors, vous êtes chirurgien esthétique.
Je suis chirurgien plasticien, réparateur et esthétique. Voilà l'intitulé très complexe, mais qui signifie que nous avons fait des études de chirurgie réparatrice dans un premier temps, et puis nous nous sommes tournés vers la chirurgie esthétique, qui est la fille cadette de cette chirurgie, et cette chirurgie s'est développée depuis un siècle, la chirurgie esthétique, avec beaucoup d'innovations françaises, on peut le dire.
D'accord.
Et puis c'est une chirurgie qui a gagné le monde, notamment maintenant le Maghreb et toutes les régions méditerranéennes où elle se développe énormément parce qu'il y a du soleil.
Et parce qu'il y a du tourisme. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un tourisme esthétique. On parlait tout à l'heure de la Tunisie, de la Turquie aujourd'hui, qui est devenue alors un spot mondial pour les cheveux, les dents, les liftings. C'est incroyable.
Oui, le tourisme, on va peut-être en reparler un peu plus tard.
On en parlera tout à l'heure, et des questions que ça soulève. Oui. Vous publiez Chirurgie esthétique pour ou contre aux éditions Flammarion, où, je sais pas si vous faites l'avocat du diable, mais vous vous intéressez aux ratés de la chirurgie esthétique, et vous dites qu'aujourd'hui, visiblement nous, les médias, la toile, les réseaux sociaux, s'intéressent de plus en plus aux ratés de la chirurgie esthétique plutôt que de ce qui fonctionne. Pourquoi? Pourquoi ce succès, finalement, de la thématique?
Je vous repose la question parce que c'est finalement la médiatisation des ratés qui nous surprend, nous, en tant que professionnels, parce que les ratés, dans notre domaine, sont quand même assez rares. Et en tout cas, pour nous, un raté, ça ne veut pas dire un raté complet, on doit pouvoir le rattraper. C'est-à-dire que c'est une étape avant l'amélioration, parce que dans la chirurgie, il y a des aléas, la cicatrisation, l'infection.
Donc ça c'est le problème. Bon, déjà, il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais ce qu'on appelle une obligation de moyens. Pourquoi? Parce que les juges, quand ils voient qu'il y a eu un raté, quelle qu'en soit la cause, et que le patient n'est pas content, et qu'il est justement pas content, ils ont envie de le dédommager. Et donc, quelque part, même s'il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a quand même des jugements qui prennent le compte d'un manque d'information. Et ce manque d'information peut motiver, à ce moment-là, un remboursement ou un dédommagement.
Bon, déjà, c'est un contrat que vous passez avec votre chirurgien esthétique, ne l'oubliez pas.
Oui, et puis surtout pour nous, ce qui est important, c'est ce devoir d'information. Et comme c'est parfois difficile de dire de vive voix à un patient, ben voilà, les risques que vous courez sont de mourir d'anesthésie, d'avoir une infection.
C'est pas anodin. Une anesthésie, ça n'est jamais anodin.
Tout à fait. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai aimé l'écrire. J'ai voulu que dans un livre, on puisse lire tout ce qu'on ne peut pas parfois entendre. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est très particulier, que mon maître Raymond Villain, c'est un très grand chirurgien, ce qui est paradoxal pour un chirurgien esthétique de s'appeler Raymond Villain, mais il avait du génie, et il avait dit, les patients ont une bande de surdité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'entendent pas, même si on les dit. Et donc, le fait que ce soit écrit est fondamental, et dans notre société savante, nous avons publié ce qu'on appelle des fiches d'information que l'on donne obligatoirement aux patients, très longues, malheureusement tout le monde ne les lit pas, mais on leur donne et ils doivent les signer, parce que dedans il y a
c'est comme les conditions générales de vente, souvent vous découvrez les conditions générales de vente le jour où vous avez un problème, vous ne les lisez jamais avant.
C'est vrai, et c'est pour
ça. On vous demande de les valider. Vous savez que souvent on dit j'accepte les conditions générales de vente, mais vous les acceptez sans les lire.
Mais voilà, c'est pour ça que malgré tout, il fallait les écrire d'une façon plus claire, plus grosse. Et mon livre est là pour cela, pour essayer de mieux préciser tous les problèmes qui peuvent arriver.
Bon, il y a des chiffres qui existent sur le nombre des ratés. Ça fait quoi?
Ils représentent à peu près 2% des patients en France. Et je parle de ratés vrais, de complications sérieuses et importantes. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 98% de succès.
Qui se passe bien, bon.
Qui se passe bien. Bon. Il y a 5% de patients qui peuvent avoir une petite complication. Ça peut être une petite infection sur des fils ou un résultat qui n'est pas absolument conforme à leur attente, pour lequel un deuxième acte, qu'on appelle une retouche, va être pratiqué.
Bon. Alors, quand j'ai lu votre livre, moi j'ai dévoré votre livre, ce qui fait que déjà tout ce qui concerne la chirurgie esthétique, déjà, c'est passionnant. Est-ce qu'on peut revenir comme avant? admettons, voilà, j'ai fait une opération, je suis pas content du résultat, je vous dis, rendez-moi mon visage d'avant, c'est possible ou pas ?
Votre question me fait très plaisir, parce que c'est le concept de réversibilité de l'acte. Mmh. Et toutes les opérations qui ont été inventées récemment, et notamment en médecine esthétique, où on va utiliser des produits que l'on va injecter, par exemple, eh bien, ce ne sera plus des produits qui vont rester à l'intérieur du corps. C'est pareil pour les prothèses mammaires. Actuellement, les prothèses que l'on met en place, on essaye de faire en sorte de pouvoir les ressortir si jamais il y avait un problème, sans que ça soit abîmé. Je vous donne un exemple très précis. Quand on met en place un implant mammaire pour une jeune fille qui n'a pas suffisamment de poitrine, on peut passer soit par l'aréole, soit au-dessous du sein, dans le sillon, soit même par l'aisselle. Et l'intérêt de passer par l'aisselle, c'est que si jamais on doit retirer la prothèse pour une raison X, c'est très rare, mais ça peut arriver, la patiente se retrouve sans aucune cicatrice visible, finalement.
Vous décrivez quelque chose que vous découvrez en 1974. 1974, c'était pas aujourd'hui, parce que vous vous dites qu'il y a eu énormément d'innovations. C'est ce que vous appelez le SMAS, le SMAS. Donc, le système musculo-aponévrotique superficiel, donc, qui est la base du lifting. On a fait quelque chose de mieux en 40 ans ou ça reste toujours d'actualité ?
Ça reste toujours d'actualité.
C'est pour ça que vous me dites, on est dans l'innovation, mais finalement cette technique, elle a 40 ans.
Oui, 40 ans. Mais elle reste toujours la technique de pointe. Je vais vous donner une explication claire. Quand on faisait un lifting autrefois, on tirait la peau comme une femme qui tire la couverture sur un lit dont on a laissé les coussins au milieu et les draps mal tendus. Et l'idée a été de faire un lifting pour qu'il soit naturel, c'est de replacer tous les éléments, même en profondeur, à la place où ils devraient être quand on est jeune, parce qu'avec les années, c'est pas seulement la peau qui se distend, c'est des amas graisseux qu'on a, qui se descendent, c'est des rides qui apparaissent, qui sont liées à la détente des ligaments suspenseurs de la face. Et donc ce système musculo-aponévrotique superficiel de la face, c'est difficile à dire, donc on l'a appelé le SMAS, permet de retendre en profondeur, mais il comporte un risque. Parce que c'est plus difficile, il faut aller plus profondément quand on fait lifting. Donc il s'agit d'une chirurgie pour gens plus sophistiqués, plus avertis, pour des chirurgiens habiles qui connaissent bien l'anatomie. Et le résultat, malgré tout, est que cela donne un très bon résultat naturel. Vous parlez tout à l'heure de revenir à l'état antérieur.
À l'état d'avant.
Je vais vous donner un exemple.
Rendez-moi mon visage, docteur. Rendez-moi le nez de mon grand-père.
Imaginez une femme qui arrive à 65 ans et qui voudrait revenir un peu à comme elle était avant. On lui demande d'amener des photos quand elle était très jeune. Et justement, c'est très important pour nous de voir des photos à 18, 20 ou 25 ans, de voir ce suivi. Pourquoi ? On ne va pas la ramener à 18 ans. Mais malgré tout, on voit de quoi elle était faite. Est-ce qu'elle était plus ronde ? Est-ce qu'elle était déjà creuse ? Où étaient ses pommettes ? Et donc, le but du chirurgien plasticien et esthétique, c'est d'arriver à retracer en quelque sorte à l'envers la course du temps pour essayer de se caler à la meilleure, au meilleur résultat possible et au plus jeune possible.
Bien, on va parler beaucoup de chirurgie esthétique aujourd'hui, mais déjà il faudrait aussi placer là où vous vous situez, vous battez et vous militez pour une chirurgie esthétique démocratique et vous êtes venu à la chirurgie esthétique par des accidents, par exemple vous parlez des personnes qui étaient victimes d'accidents de la route, tout ça. Donc voilà, au début vous étiez pas en train de refaire des pommettes et des nez en trompette.
Oui, mon parcours est très particulier. Mais
vous étiez gynéco à la base ?
Non, mais ça c'était quand j'étais à Madagascar, parce que j'ai fait mon service militaire à Madagascar. Oui, j'étais affecté à un service de gynécologie et c'était passionnant pour moi, parce que là aussi j'ai essayé d'apporter des innovations. J'ai un esprit positif.
Comment vous êtes passé de ça à la chirurgie esthétique ? C'est ça qui est intéressant.
Parce que ma passion a été de lutter contre ce qui pouvait être le plus harmonieux. Et donc l'extérieur du corps, c'était un challenge, c'est une sculpture, c'est une activité quasi artistique, c'est pas de l'art, c'est une technique. Mais il y a quand même quelque chose que tout le monde peut voir. Et donc ça m'a beaucoup plu, c'est une chirurgie d'une très grande minutie, d'une très grande finesse. Donc au départ, j'étais chirurgien réparateur, microchirurgien. Je suis parti aux États-Unis.
Pour raconter l'histoire d'un doigt, notamment.
Oui, de chez un jeune garçon pour lequel je me suis vraiment battu contre tous. Parce que justement, il a fallu le réopérer pour essayer de sauver son pouce, parce que tout se passait pas très bien. Et finalement, voilà la microchirurgie. Et finalement, j'ai réussi. Ça m'a beaucoup marqué. Ça veut dire que quand on a un objectif en tête, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas prendre de risques stupides pour la vie du patient. Mais c'était une chirurgie passionnante. Et à partir de là, je me suis orienté progressivement vers la chirurgie esthétique que j'avais appris aux États-Unis, qui n'était pas enseignée en France. À l'époque, dans les hôpitaux, on ne faisait que de la chirurgie réparatrice. Et j'ai eu cette volonté de mettre à la disposition de patients qui ne pouvaient pas payer, parce que la chirurgie esthétique,
c'est pour ça que vous vouliez démocratiser.
Voilà. Hein. Et donc, j'ai implanté dans l'hôpital, en accord avec la direction de l'époque, un service de chirurgie esthétique où nous n'étions pas payés, je précise bien, nous ne prenions pas d'argent. Les patients payaient directement à la caisse de l'hôpital. Nous étions salariés. Mais quel bonheur ça a été de développer ce service. Alors, comme tout ça s'est développé énormément, on avait des listes d'attente importantes parce que les opérations étaient tarifées au plus bas en fonction du prix de journée à l'époque. Et c'était encore moins cher que ce qu'on paye en Tunisie actuellement.
On parlera tout à l'heure de ce tourisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que finalement, tout le monde a accès à la chirurgie esthétique, ou ça reste les milieux du showbiz, de la télévision, de la télé-réalité de...
La pratique quotidienne, moi j'ai quand même 40 ans d'hôpital, a montré que tout le monde a besoin à un moment donné d'affronter son complexe. Parce que le complexe, il appartient à quelqu'un de riche, plus qu'à quelqu'un qui est pauvre. Tout le monde, en se regardant dans le miroir, à un moment donné, va se dire « il y a quelque chose qui ne me va pas, qui ne me plaît pas ». En fait, les psychanalystes, les psychiatres appellent ça une faille narcissique. C'est comme une brisure, c'est aussi visible chez eux que si vous aviez une cicatrice qui vous transforme votre visage en quelqu'un d'insupportable. Et donc, ils vont aller à une demande de chirurgie esthétique. Le problème, c'est comment faire pour avoir le bon chirurgien au bon endroit pour le tarif qui est adapté à sa situation.
D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon chirurgien esthétique ?
Alors là aussi, moi, mon idée est un peu différente de celle de tout le monde. Je ne crois pas que ce soit le web. Je ne crois pas que ce soit seulement le bouche-oreille.
Vous savez, j'avais des jolies sites sur internet,
oui,
bien luxueux.
Tout à fait. Et puis il y a aussi des sites pour lesquels certains payent pour être en première page. Non, moi mon idée c'est qu'il faut revenir au médecin de famille. Parce que le médecin de famille, il a autour de lui plein de patients qui ont été opérés et il peut vous orienter, vous donner des noms, vous guider. Et je trouve que revenir par ce centre du médecin généraliste, du médecin de famille, est un bon moyen parce que lui va pouvoir vous orienter sans que ça soit quelque chose qui est simplement vénal.
Vous parlez donc des ratés de la chirurgie esthétique dans votre livre. Quels sont les ratés ? Qu'est-ce qu'une opération ratée quand on se place du point de vue du patient ?
Alors, du point de vue du patient, il y a deux cas. Il y a d'une part le raté évident, c'est-à-dire on opère une patiente qui n'a pas de poitrine, par exemple, on lui réduit sa poitrine, ce qui est une demande extrêmement fréquente, quand les femmes ont des hypertrophies mammaires, ce qui est très gênant à porter, eh bien elles demandent une réduction. Et si on réduit cette poitrine et que les deux seins ne sont pas pareils, eh bien à ce moment-là, c'est un raté. Et il va falloir retoucher pour retrouver une symétrie satisfaisante. Et puis il y a un deuxième type de raté, qui est un raté allégué, c'est-à-dire que pour la patiente, l'opération est ratée, mais pour le chirurgien, elle paraît quand même satisfaisante. Et cette notion du raté pour la patiente, c'est quelque chose de très important parce que nous devons être humbles, on doit écouter la patiente, pourquoi elle trouve que c'est raté. Et là, il y a aussi un petit danger, parce qu'il y a des patients qu'on appelle les dysmorphophobes. Et pour eux, toute opération sera toujours, toujours ratée. Ils ont un trouble obsessionnel du comportement. Quelle que soit l'opération qui soit faite, il y a quelque chose qui n'ira pas parce qu'ils sont à la recherche d'une autre opération. C'est une sorte de course sans fin et c'est même dangereux.
C'est une drogue, ça. Enfin, finalement, c'est une addiction.
Oui, c'est une sorte d'addiction, mais c'est une addiction qui est dangereuse parce qu'elle passe par le bistouri. C'est quand même encore plus dangereux qu'une drogue.
Vous avez rencontré le chirurgien de Michael Jackson.
Oui.
Est-ce qu'on sait techniquement, combien il a eu d'opérations ?
Il a eu une quinzaine d'opérations, mais l'histoire mérite d'être racontée. Parce que Michael Jackson, c'est l'image même du raté chirurgical, et en fait, l'histoire est beaucoup plus
subtile. Ça dépend
subtile.
À quel moment, d'ailleurs, où il est.
Oui, ouais. C'est l'histoire, elle est beaucoup subtile. Est-ce que vous me permettez de quelques minutes où je vais raconter cette histoire ?
Allez-y, histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Allez-y.
Merci. Michael Jackson, beau garçon, fratrie noire, avec un souci qui arrive quand même souvent chez les patients de couleur, c'est qu'il avait un nez aux narines épatées et un nez assez large. Et il est victime d'une brûlure, il est donc soigné dans un hôpital californien, et là il rencontre un jeune chirurgien qui va s'occuper de lui et qui va le sauver.
C'est la brûlure Pepsi. C'est là où il prend le spot dans la, sur la tête, c'est ça?
Oui. Oui. Voilà.
D'accord.
Voilà. Et après cela, donc, il va demander à ce chirurgien de réaliser une opération esthétique. Cette opération se passe bien, mais progressivement, voilà qu'il a une maladie de peau qui apparaît. Des taches blanches apparaissent sur sa peau et ses tissus, petit à petit, se rétrécissent. Et c'est le cas aussi au niveau de son nez. Et cela va induire chez lui plusieurs tentatives de réparer ce nez en faisant à chaque fois une opération de plus en plus complexe. Et cela va entraîner cette image assez effroyable que l'on voit de lui, où il ressemble à un alien, à un extraterrestre, avec un nez complètement ratatiné, petit, pointu, on a l'impression que tout va se perforer, et ce comportement donc chez lui, addictif à la chirurgie esthétique, mais c'est quand même plus complexe que ça, parce qu'au départ, ça partait d'une tentative de réduction d'un nez épaté.
Mais vous dites que sa sœur, elle entreprend la même démarche, mais qu'elle, elle s'arrête avant.
Elle s'arrête avant, ouais. Et Latoya Jackson est une jeune femme très jolie, parce qu'elle a su, elle a trouvé aussi quelqu'un qui a dit stop, on arrête, et qu'elle-même a accepté de ne pas aller au-delà.
On va parler dans un instant donc de quelque chose qui est de plus en plus répandu aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, qui a des conséquences, et voir comment la chirurgie esthétique intervient suite à ce qui se passe sur le corps. Vous pouvez bien sûr intervenir et poser vos questions au docteur Mitz au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, avec le docteur Vladimir Mitz qui publie Chirurgie esthétique pour ou contre, c'est chez Flammarion. Et là, vous parlez des ratés de votre profession, qui n'est pas sans risque. Mais vous le disiez tout à l'heure, ça concerne à peu près 2% des opérations. Donc, dans les opérations normales, les ratés, c'est combien, en fait? Pour mettre en perspective.
C'est jamais plus de 5%.
D'accord.
C'est jamais plus. Quand on fait nos questionnaires pour les patients, on a 95% de patients satisfaits. Les opérations les plus dangereuses, c'est celles où il y a le plus de décollement, plastie abdominale, opérations post-bariatriques. Donc ça, on va en parler, je pense, très largement maintenant.
Oui.
Et ce sont des opérations délicates pour la raison que l'on doit redraper des tissus, donc les décoller un peu avant. Et quand le chirurgien dit décollement, ça veut dire qu'on va couper des vaisseaux en profondeur. Et bien sûr, le feuillage cutané peut souffrir.
Donc qu'est-ce qui se passe en cas d'opération bariatrique au niveau du corps de la personne qui se fait opérer déjà?
Il y a vraiment deux évolutions très différentes. D'abord, je dois préciser que beaucoup de patients d'Afrique du Nord ou de périméditerranéens ont ce problème de super-obésité et donc sont des patients que l'on voit nous beaucoup dans nos consultations, aussi bien avant qu'après une opération bariatrique. Ces opérations bariatriques...
Alors on va expliquer aux gens, pour le grand public, en quoi elles consistent. Hein,
l'opération bariatrique, elle consiste à faire perdre du poids. Et par exemple, à l'hôpital Boussicault où j'étais, nous avions été leaders avec le professeur Chevalier, qui était un chirurgien digestif, qui a mis au point des techniques de chirurgie bariatrique, a été un des grands leaders de cette spécialité. Et cela consiste à diminuer l'apport des aliments au niveau de l'estomac et des intestins, de façon à ce qu'il y ait un amaigrissement automatique qui se produise. Au début, on mettait des petits anneaux autour du bas œsophage, donc on rétrécissait en quelque sorte l'entonnoir par où les aliments arrivent. C'était une technique.
Donc là, vous arriviez à satiété beaucoup plus rapidement.
Oui, mais il y a eu beaucoup de complications, parce que ces anneaux perforés avaient beaucoup de complications, parfois vitales. Donc après, on est passé à ce qu'on a appelé des courts-circuits digestifs. C'est-à-dire les chirurgiens digestifs, dont c'est la spécialité, ont commencé à rétrécir l'estomac, pour qu'il y ait moins d'aliments qui arrivent, ou de faire des circuits rapides, c'est-à-dire ils ont branché l'intestin sur l'estomac pour que l'évacuation soit plus rapide. Et le progrès qui a été fait, c'est que ces opérations puissent faire par endoscopie. Ça, c'était plus la peine d'ouvrir le ventre du patient, on faisait des petits trous, on mettait la télévision à l'intérieur, et par des pinces, très minutieusement, on pouvait réaliser ces opérations. Résultat fantastique, parce qu'un patient de 130, 150, 200 kilos pouvait perdre jusqu'à la moitié de son poids en l'espace de un an. Mais voilà, je vous ai dit, il y a deux types d'évolution possibles. Il y a des patients qui sont bénis des dieux parce que leur peau va se rétracter très harmonieusement. C'est souvent le cas.
Elle va se coller. Hein,
elle va se recoller, se rétrécir grâce aux fibres élastiques. C'est comme un ballon qui reprendrait sa place une fois qu'il est dégonflé. Et puis, il y a d'autres patients, malheureusement, où la peau va rester flasque et il va y avoir des séquelles importantes, rarement au niveau du visage, plutôt au niveau des seins, de l'intérieur des bras, du ventre, de l'intérieur des cuisses. Et donc, il va falloir jouer au tailleur. Alors, on envoie ces patients.
Voilà, elle demande donc les réparations secondaires pour qu'on enlève le surplus de peau.
Tout à fait. Et il faut quand même préciser pour vos auditeurs que c'est quelque chose que les patients n'imaginent pas. Certains des patients qui ont ainsi maigri d'une façon considérable vont nous dire à nous, après en consultation, « Vous savez, docteur, je préférais être avant, quand j'étais bien rempli, j'étais ronde. C'était difficile à vivre, mais je me trouvais bien. Alors que maintenant que j'ai perdu 100 kilos... »«
Je ressemble à un charpé. »
Oui, et c'est très, très ennuyeux pour moi, et toutes ces opérations me font peur, et elles ont raison, parce que c'est des opérations longues, avec des décollements cutanés, donc avec des risques de complications, et finalement, les résultats sont magnifiques, mais avec des coutures partout.
Voilà, donc ce qu'il faut dire, c'est que finalement, vous vous retrouvez avec un corps, il faut vivre avec, parce que bon, cette image dégradée, bon, quand vous êtes habillé, ça va, c'est quand vous êtes vous déshabillé que vous vous retrouvez avec ce corps qui pend partout, quoi.
Absolument, vous avez bien saisi le problème.
Voilà, vous expliquez dans votre livre que la plastie abdominale reste la plus redoutable des opérations en matière de chirurgie réparatrice et esthétique. Pourquoi est-ce que pour vous, cette opération est la plus redoutable ?
C'est en effet une opération où le taux des complications est de 12 à 15% des cas. Elle consiste en fait à enlever toute la peau qui se trouve entre le nombril et le pubis. Parfois même, on fait le tour du corps. On appelle ça un body lift, c'est-à-dire que le patient est retourné sur la table d'opération pour qu'on lui enlève toute la peau qui est excédentaire avec une cicatrice qui fait le tour comme une ceinture. Donc c'est une opération longue, hémorragique, donc le patient perd du sang, il perd beaucoup de tissu, on peut enlever parfois 4, 5, 6, 10 kilos de tissu excédentaire, et donc il y a un choc post-opératoire. Et une deuxième complication qui est particulière, c'est le risque de phlébite et d'embolie, parce que quand on fait cette couture, on serre beaucoup le ventre, comme une ceinture qui est trop serrée, et le sang a du mal à circuler des pieds jusqu'au cœur, au travers d'une veine qui s'appelle la veine cave inférieure, et donc il y a un risque accru de phlébite et d'embolie, et l'embolie pulmonaire peut être mortelle. Donc sont des patients pour lesquels il faut donner des anticoagulants en post-opératoire. Alors, opération sérieuse, la plastie abdominale, mais il faut dire que pour les patients, c'est un changement incroyable de qualité de vie. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec une silhouette qui est totalement rajeunie, au prix d'une cicatrice. Mais si tout se passe bien, voilà, mais ils s'en foutent de joie.
D'accord, mais alors, cette cicatrice, après, on en fait quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des opérations ou des techniques pour dissimuler les cicatrices ?
Non, la cicatrice... C'est une évolution spontanée qu'on ne peut améliorer que si elle est laide ou vicieuse, comme nous disons. En général, une cicatrice, au bout de 2 ans, elle disparaît pratiquement. Elle devient blanche, fine, parce que les techniques de suture que l'on a actuellement sont très sophistiquées. On appelle ça des sutures plan par plan. On suture à plusieurs étages pour que la cicatrice ne s'ouvre pas et reste fine. Mais certaines cicatrices évoluent, et évoluent d'une façon défavorable. Les ouvriers tissulaires vont ramener trop de ciment, ils vont laisser le ciment, ils vont partir, et on va se retrouver avec une cicatrice épaisse, rouge. Et cela arrive souvent, par exemple, chez les patients de race noire, qui ont cette capacité de faire ce qu'on appelle des cicatrices kéloïdes. Autrefois, souvenez-vous, ce sont des patients qui se tailladaient le corps pour avoir des marques rituelles. Eh bien, malheureusement, génétiquement, ils peuvent faire ces cicatrices kéloïdes qui restent très difficiles à traiter.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, finalement, aux gens qui vont entreprendre cette chirurgie bariatrique ? Quel est le bon niveau d'information qu'il faudrait leur donner à ces gens-là ?
Le premier niveau, c'est que des opérations idéales peuvent se faire en ne dépassant pas 4 heures d'opération. C'est-à-dire qu'on peut combiner, par exemple, 2, parfois 3 opérations, à condition que le chirurgien soit rapide et que la durée totale de l'opération ne dépasse pas 4 heures, parce qu'au-delà de 4 heures, eh bien, le patient est en coma sur la table, puisqu'il est en anesthésie, en quelque sorte, et donc le sang ne circule pas bien, et il risque d'y avoir un caillotage. Alors, on met des espèces de pompes sur les mollets pendant l'opération, pour masser, en quelque sorte, les mollets, mais malgré tout, 4 heures d'opération sont une limite qu'il vaut mieux ne pas dépasser. Or, certaines opérations qui sont demandées par les patients, puisque les patients sont toujours pareils, ce qu'ils veulent. Docteur, faites-moi le plus possible en une séance opératoire. Est-ce que vous pouvez pas me faire le visage, le cou, les bras, le ventre, l'intérieur des cuisses, et plus une liposuction au niveau des graisses profondes? Et voilà, ça prendrait 12 heures. Ça existe aux États-Unis, par exemple, où il y a eu des films ou des séries TV ont montré des patientes qui ont été opérées pendant 12 ou 14 heures. Après, elles apparaissent rayonnantes quand elles descendent l'escalier rouge, vêtues, parées de leurs nouveaux vêtements. Mais on ne dit pas le nombre de complications effroyables qu'il y a eu chez certaines patientes et les complications très sérieuses.
Et les douleurs que... Voilà.
Donc la première règle, c'est d'accepter l'idée d'opérations qu'on appelle séquentielles. Pas tout.
En même temps. D'accord.
La deuxième chose, c'est que ça va s'étaler dans le temps. Donc, en gros, il faut une année avec 3 ou 4 séances opératoires pour arriver à la modification et au rajeunissement complet du corps. Enfin, il faut, dans l'idéal, avoir un chirurgien qui a l'habitude de ces opérations, de façon à pouvoir justement ne pas trop traîner, faire des opérations à un rythme soutenu pour que tout se passe bien.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats ? Aujourd'hui, on obtient des bons résultats. Ce sont des techniques qui sont... qui sont bien maîtrisées.
Oui, ces techniques sont maîtrisées, par exemple, et à chaque fois, on a encore des progrès actuellement. Certains collègues ont publié des beaux résultats des liftings de la fesse, qui était une zone qui était un peu abandonnée.
Un lifting de la fesse. Alors là, ça m'intéresse, dites-moi. C'est-à-dire qu'on se fait retendre la peau des fesses ?
Tout à fait. L'idée,
ah ouais, c'est intéressant. L'idée, mais quand vous vous asseyez dessus, vous...
Aucun problème.
Ah bon, ça craque aucun pas.
Problème, ça craque pas.
Pas craquer les coutures.
Non, les cicatrices sont placées...
On peut faire du vélo, on peut...
Oui, tout à fait.
Un lifting de la fesse. C'est en vogue, ça, le lifting de la fesse ?
Oui, en ce moment, bien sûr, parce que c'était une des régions qui avait été un petit peu abandonnée dans la chirurgie post-bariatrique et que les patientes nous disent « Oui, mais là, ça ne va pas. » C'est les patientes qui poussent.
C'est la fesse un peu molle.
Ce sont les patients et les patientes qui nous poussent un petit peu à ces progrès techniques. Ils posent une question. Au début, on prend ça avec un certain sourire en disant « Bon, non, on peut rien faire. »«
Je ne peux rien pour votre fesse qui tombe. »
Voilà. Ouais. Et puis, soudain, un collègue a une idée d'une innovation technique à ce niveau-là, et puis tout le monde s'y met.
Bien, on va laisser là nos postérieurs, si vous voulez bien. Une opération dont tout le monde parle et qui est la plus pratiquée en France, c'est celle de la liposuction. Ça a été inventé par les Français. Je connais quand même un certain nombre de gens qui ont pratiqué des liposuctions. Alors ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que la graisse, ça revient.
Alors,
la graisse, c'est pas du tout un truc qui s'en va à vie.
Là, j'ai une explication importante à vous donner.
Ah.
Le corps masculin et féminin, il est fait comme une pêche.
Alors,
il y a une masse de graisse qui représente la chair de la pêche et une autre masse de graisse qui est le noyau. La chair, la graisse de surface, se développe par l'alimentation normale et surtout si elle est exagérée, sucre, chocolat, alcool, gras. Mm. Donc on stocke à peu près 30% au niveau calorique dans cette graisse de surface. Et puis à un moment donné, dans la vie d'une femme, puberté, 40 ans, 60 ans, il se produit des changements hormonaux qui font que c'est plus seulement la graisse de surface qui se développe, mais c'est le noyau. C'est le noyau de la pêche qui va grossir.
Mm.
Et quand une femme fait un régime, mais même un régime de folie, elle ne peut perdre que la graisse de surface. Elle peut perdre la chair de la pêche, mais les noyaux y restent. Et c'est ça qui désole les femmes, parce qu'elles vont vous dire, mais docteur, j'ai beau faire un régime depuis 4 mois, j'ai perdu 10 kilos, mais regardez, ma culotte de cheval, elle est restée, j'ai toujours des gros mollets, des grosses chevilles, l'intérieur de mes cuisses frotte, j'ai toujours un ventre qui est protubérant. Et là, le seul secret, c'est de faire la liposuction au niveau du noyau. On ne va pas aspirer la graisse de surface. Pourquoi ? Parce que si on aspire la chair de la pêche, donc la graisse de surface, on va créer des irrégularités. Et c'est très laid.
Ça fait des trous.
Pas des trous, des vagues et des irrégularités. Et
puis on ne peut pas les combler parce que maintenant, il y a des méthodes de complément avec sa propre graisse.
Comme je vous ai dit, dans raté, il y a toujours rattrapé. Ouais. Donc le rattrapage de ces ratés de la liposuction de surface, c'est le lipofilling. Peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. Mais le message qui est important à transmettre aux patients, c'est qu'il vaut mieux maigrir avant une liposuction, c'est-à-dire perdre la graisse de surface, éliminer la chair de la pêche, on voit mieux les noyaux, et nous, chirurgiens, on pourra comme ça accéder plus facilement et faire un bon travail en profondeur.
Bon, en tout cas, la graisse revient, c'est pas définitif, sauf qu'elle revient pas aux endroits où ça a été aspiré, c'est ça ?
Elle peut revenir un peu à l'endroit où elle a été aspirée, parce que les adipocytes, ce sont des cellules, celles que l'on va aspirer en quelque sorte, sont des cellules qui sont grosses comme des grains de raisin. Mais imaginez une grappe de raisin, il y a des gros grains, puis il y a des tout petits grains. Et quand on fait la liposuction, on va aspirer les gros grains de raisin, ils vont exploser. Mais les petits grains qui sont là, ils vont dire « Ah ah, il y a de la place maintenant pour moi » et ils peuvent se redévelopper. Et c'est pour ça qu'on admet qu'à peu près 10% de récidives après une liposuction qui ne sont pas dues à une erreur du chirurgien, mais qui sont liées simplement au fait que des adipocytes qui étaient rémanents, résiduels en profondeur, se sont redéveloppés.
Sur les mollets, vous pouvez faire quelque chose? Parce que là, vous avez parlé des cuisses, des mollets.
Mollets et chevilles.
Ah oui?
Mollets et chevilles. Alors, au niveau des muscles du mollet, on n'a pas grand-chose à faire. Il y a quelques opérations qui ont été imaginées, qui sont assez sauvages. Mais comme le mollet est entouré de graisse, une quantité qui n'est pas négligeable, y compris au niveau des chevilles, on peut faire une liposuction. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et je parle par exemple aux femmes qui ont des très grosses jambes, grosses cuisses, chez elles, il n'y a pas que de la graisse, il y a aussi de la lymphe. Une accumulation d'un liquide dans lequel il n'y a pas de vaisseau de cellules sanguines. Et on fait à ce moment-là ce qu'on appelle des lympholiposuctions. Et cela permet d'enlever, en quelque sorte, de diminuer cette composante lymphatique, mais en même temps aussi graisseuse au niveau des membres inférieurs. Et c'est quelque chose qui est très pratique pour ces patientes parce qu'elles ont des membres inférieurs moins lourds. C'est beaucoup plus facile pour elles de se vêtir et de...
Voilà, marcher. Et c'est vraiment des résultats qui se voient.
Ah oui, il y a une différence considérable.
Je pense aux femmes qui ont des jambes en forme de poteau. En fait, finalement, là, on arrive vraiment à...
Tout à fait. C'est une des techniques qui, actuellement, est les plus employées chez ces patientes qui ont des grosses jambes de composantes mixtes, graisseuses et lymphatiques.
Alors, parlez-nous, vous avez commencé à le faire, du lipofilling, qui a été une méthode longtemps interdite. Donc, de quoi s'agit-il, docteur Mitz?
Yves Gérard Illouz, qui a été l'inventeur de la liposuction dans les années 78-80, avait déjà eu l'idée, en voyant une jeune fille qui n'avait pas de poitrine, une grosse culotte de cheval, d'enlever la graisse de la culotte de cheval pour la mettre dans les seins. Mais il n'osait pas le dire. Pendant des années, ça a été une technique qui a été interdite parce qu'on ne savait pas comment greffer la graisse qu'on prélevait.
Mais quand vous dites que c'était interdit, est-ce que ça se faisait en loose day ou
Ça se faisait un peu en loose day, mais avec des complications. C'est-à-dire que si on prend la graisse, on l'aspire et on l'injecte comme si on poussait de la crème chantilly sur un gâteau, eh bien cette graisse, elle va mourir, elle va entraîner des complications.
Donc le lipofilling, c'est donc se réinjecter sa propre graisse,
c'est le principe, mais pourquoi est-ce que ça peut marcher? Comment on a découvert que ça pouvait marcher? Parce qu'il a fallu isoler les cellules, récupérer ces cellules, les filtrer, en faire une sorte de spaghetti, et surtout creuser des tunnels pour mettre en place ce spaghetti, un peu comme si on plantait du riz dans une rizière. Alors, quand on fait cela, la graisse repousse. Et miracle, dans ces cellules graisseuses qu'on déteste, il y a ce qu'on appelle des cellules souches. Et les cellules souches de la graisse, c'est des cellules miraculeuses. Elles ont le pouvoir de régénérer les tissus d'alentour. Et par exemple, on a commencé à s'en servir quand une femme avait eu un cancer du sein enlevé et de la radiothérapie, avec une peau qui était de très mauvais état. Eh bien, on a commencé à injecter cette graisse avec ces cellules souches et on a eu la bonne surprise de voir la qualité de la peau qui s'améliorait. Et donc, pendant 10 ans, on a traité des femmes qui avaient eu des cancers du sein en reconstituant une toute ou partie de leur sein par ces lipofillings sophistiqués. Jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'après tout, si la technique était fiable dans ce cas-là et qu'elle ne créait pas de risque de cancer, eh bien on pouvait l'utiliser en chirurgie esthétique. Et actuellement, c'est ce qu'on fait. Dans certains cas, quand une jeune fille n'a pas de sein mais une culotte de cheval, on va pouvoir, pas une fois, il faudra 2 ou 3 sessions, mais on peut lui refaire sa poitrine avec sa propre graisse.
Sans prothèse. Sans prothèse, c'est ça que ça veut dire.
Ça peut être sans prothèse.
Ouais.
Dans d'autres cas, quand on met en place une prothèse qu'elle est trop petite ou qu'elle est un peu trop apparente, on va pouvoir estomper les contours de la prothèse avec la graisse de la patiente. Donc le lipofilling est une opération maintenant extrêmement pratiquée, très bien maîtrisée, mais il ne faut pas penser qu'un seul lipofilling va arriver à un très bon résultat isolé, parce qu'il n'y a qu'une cellule sur 3 de graisse, un adipocyte sur 3 qui prend.
Et là, ces injections de graisse, elles peuvent se pratiquer sur toutes les parties du corps?
Sur toutes les parties du corps. Même on utilise par exemple des cellules de graisse très très fines pour rouler les lèvres, pour en mettre au niveau des sillons nasogéniens, pour en faire des pommettes, pour augmenter un petit peu un menton. Et donc vraiment, la graisse est devenue maintenant le nouveau ciment des chirurgiens esthétiques.
Bien, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça dit d'une société, cette volonté d'avoir des grosses lèvres. C'est incroyable ça. D'abord, ça se voit, c'est moche. Et pourtant, ça fonctionne, puisque de plus en plus de gens le font. Le docteur Vladimir Mitz est notre invité. Profitez de sa venue et posez-lui des questions. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ah oui, il y a le secret professionnel. Hein. Le docteur Mitz ne veut pas nous dire si ses patients célèbres ont subi des choses. Hein. T'as raison, bah, ouais, bah, j'aimerais pas qu'on dise, tiens, Philippe Robichon, je lui refais son nez, ses paupières, ses cheveux. Les cheveux, parce que c'est Mehdi qui vous posait la question en antenne, mais par exemple, vous, vous ne pratiquez pas de greffe de cheveux. C'est considéré comme de la chirurgie esthétique ?
Oui, oui, c'est considéré comme la chirurgie esthétique parce que c'est un acte où il y a une effraction de la peau. C'est-à-dire que est considéré comme chirurgical
oui.
le fait que l'on doive utiliser une pointe ou un bistouri qui va passer au travers de la membrane cutanée.
D'accord. Donc c'est une opération de chirurgie esthétique, même si ça n'a pas l'air. L'implantation des dents.
Les implants, vous voulez dire
oui.
Alors, les implants, c'est considéré comme un acte chirurgical, mais qui est fait par des odontologues, des oui. stomatologues ou des dentistes qui ont été formés. Mais c'est un domaine qui est un petit peu à part parce que les chirurgiens maxillofaciaux le font aussi, mais il faut être chirurgien quelque part.
Bien. Vous pratiquez la médecine esthétique depuis quelques décennies. Quand vous avez commencé, il n'y avait pas cette mode des grosses lèvres. C'est arrivé quand ?
Ah, c'est arrivé dans les années 90 et même moi j'ai été surpris de voir ce qu'on a appelé les French Lips qui étaient à la mode avec des conférences par certains collègues qui vantaient l'injection de produits divers et variés au niveau des lèvres pour fabriquer des lèvres pulpeuses. La question derrière cela est quel est le motif, pourquoi se faire regonfler les lèvres ? Là, il y a vraiment deux cas très différents. Il y a certaines patientes des femmes surtout, mais certains hommes aussi, qui ont des lèvres extrêmement fines. Et ils peuvent en souffrir parce que cela donne un côté un petit peu cruel à leur apparence. Moi, si je vois George Clooney, il n'a pas des lèvres qui sont très épaisses et il est très bien comme il est, donc il n'y a pas de raison non plus de s'alarmer parce qu'on a des lèvres fines, mais cela peut être un complexe. Chez la femme, c'est un petit peu différent parce que les lèvres véhiculent une image de sensualité particulière. Et donc, on peut comprendre qu'une femme qui a des lèvres extrêmement fines et surtout qui s'affine avec le temps. Parce que le problème qui passe, c'est qu'entre l'adolescence et puis arriver à 40 ou 50 ans, toute la plaque lèvres, aussi bien la lèvre blanche que la lèvre rouge, s'atrophie un peu chez la femme avec des petites ridules qui apparaissent et des parenthèses de chaque côté. Et c'est quelque chose qui est très difficile à supporter pour une femme parce que c'est un signe avant-coureur du déclin. Et elle veut lutter contre cela. Mais, pour revenir à votre question, donc l'injection à cette époque était faite avec des produits terribles. C'était ou de l'huile de silicone, qui est un produit qui ne s'en va pas, jamais, ou avec d'autres produits qui étaient du collagène, qui est hyper allergisant. Et donc, il y a eu beaucoup d'ennuis. La silicone, encore aujourd'hui, a déformé énormément de bouches et nous a imposé de trouver des techniques pour rajeunir, en quelque sorte, ces lèvres qui sont déformées. Heureusement, depuis les années à peu près 2005-2010, deux substances fantastiques ont fait irruption dans notre arsenal thérapeutique. C'est l'acide hyaluronique, qui est très intéressant, et la propre graisse de la patiente, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, j'ai parlé de la graisse, mais l'acide hyaluronique, c'est une belle histoire. L'acide hyaluronique, il provient de l'écrasement des crêtes de coque, et il était utilisé au départ comme une sorte de gel transparent pour remplacer le vitré de l'œil, qui est un endroit qui se trouve en arrière de notre œil et qui permet à l'œil de rester bien tendu, en quelque sorte, bien rond. Et chez certains patients, il fallait remplacer ce vitré par une autre substance et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'acide hyaluronique, à une molécule. L'acide hyaluronique, en fait, on en a tous. On en a tous dans les cartilages.
Ça ne s'invente pas quand même. Hein. Pensez à la crête du coq, quoi. C'est incroyable.
Incroyable.
Mais je veux dire, comment les gens peuvent arriver à cette...
Mais parce qu'il y avait énormément d'acide hyaluronique dans les crêtes de coque. Mais on en a tous, on a dans tous nos cartilages, on a dans notre corps de l'acide hyaluronique. On a même une hormone, enfin un enzyme qui s'appelle la hyaluronidase, qui petit à petit nous grignote notre acide hyaluronique des cartilages. Et donc, petit à petit, les fabricants ont eu l'idée, les chimistes ont eu des grands progrès dans leur tête, et ils ont décidé de fabriquer l'acide hyaluronique, non plus en manipulant ces pauvres coques qui leur avaient rien fait, mais par génie chimiques et microbiens, c'est-à-dire qu'ils ont cultivé des bacilles qui ont été transformées pour fabriquer des tonnes et des tonnes d'acide hyaluronique. Et donc on a eu à notre disposition un acide hyaluronique extrêmement pur, dont il existe plusieurs réticulations, plusieurs sortes plus ou moins visqueuses, que l'on a pu utiliser. Et l'intérêt de l'acide hyaluronique, c'est qu'il va être totalement éliminé par notre organisme et qu'il n'est pratiquement pas allergisant. Et donc on s'est retrouvé avec une substance qui nous permettait de corriger les défauts d'épaisseur, de remplir un peu les lèvres, les sillons ou tous les petits trous trous que l'on peut constater au niveau de son visage.
Mais pourquoi ça se voit ? En fait, vous dites que c'est formidable, mais finalement, quelqu'un qui va toucher à sa bouche, on le voit tout de suite.
Je vous assure que non.
Il y a des boursouflures. Hein.
Non, je vous assure que non. Si c'est fait avec une main experte et légère, l'idée c'est que personne ne doit rien voir.
Ah oui, c'est ça. Mais
personne
mais
ne doit
voit,
rien
ça,
voir.
Ça se voit.
Je vous assure que non. Ça se voit que si c'est mal fait. C'est-à-dire quand on en met trop, pas symétrique, qu'on crée ou qu'on pique trop en surface, donc là on crée des petites boules. Mais les chirurgiens, nous on est habitués à piquer puisqu'on connaît l'anatomie d'une façon très approfondie, et on va déplacer l'acide hyaluronique là où il faut le mettre, un peu plus en profondeur, pour retrouver des reliefs naturels. Il ne s'agit pas de transformer toutes les femmes aux lèvres fines ou un peu vieillies en pulpeuses qui seraient des sidérantes.
Non mais non, c'est terrible, vous avez même des stars qui sont riches, tout ça. Vous voyez des trucs affreux, vous dites comment on a pu leur faire ça.
Ah ben Philippe, j'ai la même réaction que vous, mais c'est pour
mais
ça.
Comment elles ont pu se laisser faire ça ?
Mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour alerter. Nous, chirurgiens actuels, des années 2000, du 21e siècle, nous faisons une chasse à ce qui n'est pas naturel. Et je dois dire que même aux États-Unis maintenant, la nouvelle génération de chirurgiens esthétiques, il vient aussi, parce qu'autrefois aux États-Unis, il fallait que ça se voit pour une raison simple, c'est une raison financière. Je me souviens quand je faisais mes études à Miami, il y avait toutes les vieilles dames qui allaient à South Miami Beach en retraite, elles s'asseyaient sur des bancs, et le fait qu'elles aient eu un lifting dont on voyait, parce que c'était les liftings que nous on considère maintenant comme mal fait, mais pour elles il fallait que ça se voit, se disaient, tu as vu, j'ai pu me payer, ou mon fils m'a payé mon lifting. C'était un peu leur fierté, parce que ça se voyait.
Un bon coup de soleil là-dessus, et ça repart.
Mais maintenant, les techniques ont bien évolué et changé, et vraiment nous nous attachons à ce que tout reste très naturel comme apparence.
Quel conseil vous donnez aux personnes qui vont se faire opérer à l'étranger ? Alors, il y a un vrai tourisme aujourd'hui, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit au Maghreb, en Tunisie notamment, ou en Turquie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens ? Est-ce qu'ils sont vraiment vos concurrents, ces gens-là ?
Oui, ils sont nos concurrents parce que les tarifs qui sont pratiqués dans ces pays sont parfois moitié moindres que ceux qui sont pratiqués en France. En plus, en France, la chirurgie esthétique est taxée à 20%, il y a une TVA. Et donc, votre corps appartient au gouvernement pour 20% sans aucune contrepartie. Donc, c'est vrai que la chirurgie esthétique est relativement plus chère en France que dans les autres pays. Maintenant, le point très important, c'est que nous n'avons rien contre les confrères étrangers qui pratiquent cette chirurgie. Souvent, même, ils ont été nos élèves. On les a formés et ils opèrent très bien. Le problème, c'est que ce sont des tour opérateurs qui ont organisé en quelque sorte des circuits, qui recrutent, c'est eux qui font la publicité en France ou dans tous les pays européens, pour essayer de drainer des patients en leur donnant non seulement la certitude que vous allez être opéré, mais en même temps vous aurez un hôtel 4 ou 5 étoiles avec un accompagnant, vous allez rester une semaine, et tout ça va vous revenir vraiment à un très bon marché. Et cela est pour nous imparable. Pourquoi ? Parce que cette promesse fait rêver des patients par milliers. Et on doit leur dire que, attention, parce que quand ils ont une complication, quelle que soit la gentillesse ou la compétence du chirurgien qui les a opérés, eh bien, elles se retrouvent un peu coupées de ce qui fait l'essence du médecin, qui est, je prends mon téléphone, je l'appelle, j'ai un problème, et je peux le voir le lendemain ou le soir même. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre métier. Nous, chirurgiens, nous devons assurer non seulement la sécurité de nos patients, mais aussi le suivi, ce qui n'est pas possible si le chirurgien est à 2000 km.
Alors, la Bretagne, en ligne, au 01 53 48 3000, c'est Jaïd qui nous appelle. Jaïd, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour.
Bonjour, ma question, c'est très intéressant votre émission ce matin, les autres d'ailleurs aussi bien sûr.
Ah ouais, moi je me suis dit hier c'était moins bien, mais ce matin c'est mieux. Allons écouter.
Je vous l'écoute encore quand je peux, moi je suis sur la route. Voilà, moi je vais me faire opérer des paupières le mois d'avril, parce qu'elles tombent, les deux elles tombent, donc d'après mon docteur, il n'y a pas assez de nerfs, enfin je ne sais plus comment il m'a expliqué ça, pour l'ouverture de mes paupières, quoi. Et ma question, de savoir si c'est pas dangereux, et on m'a dit qu'il endormait que les yeux, est-ce que je vais avoir des sensations ou pas, enfin, est-ce que je vais voir pendant l'opération ou pas, ou...
Alors, on peut tout à fait vous rassurer. Vous pouvez continuer de rouler tranquille. C'est une opération qui est bien maîtrisée et il y a deux petits soucis à connaître. Le premier, c'est ou bien s'il n'y a que de la peau qui est en trop avec un peu de graisse à la paupière supérieure. L'opération, elle est assez facile, elle est bien réglée et les complications sont minimes. Mais il y peut y avoir un deuxième souci qu'on appelle le ptosis. Ah. Le ptosis, c'est un muscle qui relève la paupière supérieure qui est relâchée. Ça, c'est souvent d'un côté et pas de l'autre. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut raccourcir ce muscle. Et ce raccourcissement n'est pas si simple à faire, surtout que l'effet définitif ne se manifeste qu'entre 2 et 4 mois après l'opération.
Est-ce que Jaïd sera réveillé? Là, on parle d'anesthésie locale.
Oui, ça se fait sous anesthésie locale, parfois potentialisée.
Alors,
c'est-à-dire que le chirurgien fait une anesthésie locale sur un patient qui est un peu shooté, qui a reçu une drogue.
Dans les vapes.
Vous voyez, un peu dans les vapes, mais il peut partir le jour même. Et c'est une opération très confortable.
Est-ce qu'on voit pendant l'opération, demande Jaïd?
Absolument pas. Hein, totalement.
Ah, on voit pas.
On ne perçoit rien.
D'accord. C'est bien ce qu'il m'a expliqué, le docteur. En fait, il va faire la première chose, d'ouvrir les paupières, mais après la deuxième chose, si jamais ça va pas, de faire ce que vous avez dit en deuxième, là,
voilà,
au niveau plus technique.
Bon.
Mais par contre, moi, ça sera les deux, hein. Ça sera les deux. Et j'ai vu des photos qui m'a fait montrer des autres patients, et c'était très bien fait. Ben, c'est vraiment.
Vous allez avoir un œil de velours, Jaïd.
Ah oui, oui.
L'œil du tigre, vous allez voir.
Super.
Bon courage et allez-y sans angoisse.
Au plaisir, Jaïd.
Merci, Philippe.
À bientôt. Hassan est à Bobigny. Il y a que des hommes. Hassan.
Oui, bonjour, docteur.
Bienvenue, Hassan.
Bonjour.
J'ai 65 ans et j'ai des rides de front et les joues. Je suis cardiaque. Est-ce que je peux me faire opérer, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que vous avez comme maladie cardiaque?
Insuffisance cardiaque. Je suis à 38.
Alors, vous ne pouvez bénéficier que de gestes sous anesthésie locale ou sans anesthésie parce que les anesthésistes actuellement ont une règle absolue, pas de risque pour la vie pour une opération esthétique.
Donc, c'est
donc
forcément sous anesthésie locale.
Locale ou des petites injections.
Alors, pour le front, par exemple, si on doit se faire opérer le front, c'est quoi? C'est un lifting
Non, on n'opère pas le front à ce stade-là. On fait des injections de Botox parce que c'est quelque chose qui permet de détendre le front et de diminuer les rides sans nécessité de mettre le bistouri.
Non, je vous dis pourquoi pour le front, parce que j'ai des... Vous savez, avant, en Tunisie, comment dirais-je, quand on a de la fièvre ou mal à la tête, il n'y avait pas de doliprane, rien, on prenait une lame à raser et on fait des traits sur le front. Cicatrices, et c'est pas beau à voir.
Ben voilà, il vaut mieux éviter les cicatrices sur le front, il vaut mieux faire juste des piqûres.
Le Botox, c'est suffisant.
Tout à fait.
Merci docteur, bonne journée.
Bon, avec plaisir. Hassan, le Botoxé, on vous appellera maintenant.
Merci, au revoir.
À bientôt, Hassan. Faut mettre une perruque dans ces cas-là. Je savais pas que le Botox ça marchait pour le front, en fait. Non, parce qu'après, vous avez l'impression, vous savez, que vous avez un œil là et un œil là, non?
Pas si c'est bien fait.
Non, c'est bien fait?
Oui.
Bon. Sonia, rapide. Sonia est là. Bienvenue, Sonia.
Oui, bonjour, docteur.
Bonjour.
Alors, je voudrais savoir si vous faites des implants capillaires.
Personnellement, non, je n'en fais pas, mais de nombreux chirurgiens esthétiques en font, en France et à Paris notamment. Ils sont un peu spécialisés là-dedans, parce que c'est un travail d'équipe. Quand on fait des implants capillaires, un seul chirurgien ne suffit pas, il faut une préparatrice, il faut toute une petite équipe pour essayer de bien nettoyer les bulbes pileux qui sont implantés pour qu'ils prennent bien.
D'accord, mais vous avez des adresses à recommander ou pas spécialement?
J'ai des adresses à recommander, mais ici à l'antenne, je ne me permettrai pas de vous donner des noms.
D'accord. Bon. On pourra contacter ultérieurement. Merci beaucoup, en tout cas.
Avec merci, Sonia. Qui paye en cas de raté?
Alors, il y a deux possibilités. Le premier, c'est un vrai raté. Le chirurgien le reconnaît, la patiente se plaint. La patiente a un droit de retouche. C'est-à-dire que nous la retouchons.
Donc c'est pris en charge.
C'est pris en charge. D'accord. Et elle n'aura rien à payer, sauf parfois la clinique et l'anesthésie dans certains cas. Deuxième cas, nous estimons que ce n'est pas un raté et la patiente trouve que c'est raté. Donc là, on se trouve un petit peu en situation difficile. Il y a une solution que moi j'ai mis au point avec quelques-uns de mes collègues. Nous faisons ce qu'on appelle un staff gratuit. C'est-à-dire que la patiente vient à une réunion médicale où nous sommes 4 ou 5 professionnels et on l'écoute. et de façon à ce que l'on puisse vraiment déterminer s'il y a quand même une petite part d'erreur de la part du chirurgien, et sinon, eh bien que la patiente se rende bien compte que ça va être à elle d'assumer la retouche.
Docteur Vladimir Mitz, vous publiez « Chirurgie esthétique pour ou contre » aux éditions Flammarion. Vous l'avez vu, c'est passionnant. Il y a pas mal de questions, effectivement, sur les ratés, parce que ça arrive. Et toutes les questions pratiques qu'on doit se poser quand on signe un contrat et les questions qu'on doit poser à un chirurgien avant d'entreprendre, comme l'ont fait nos auditeurs tout à l'heure, une opération esthétique. Merci d'avoir été avec nous.
Ça a été un grand plaisir, Philippe.
Bien, vous revenez quand vous voulez avec le chef Voilà et on fera un devis en direct pour le chef Voilà, mais qui est beaucoup plus jeune que son âge, bien sûr. Demain, nous parlerons des châtiments corporels, utiles ou pas utiles sur les enfants. On verra ça et on en parlera notamment avec Karima, qui sera mon invitée. À demain.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.